J'ai à mes côtés Mourad Benhamou, hein, qu'on retrouvera ce soir avec The Jazz Worker Quintet, donc dans un quintet qui porte son nom. Bonjour Mourad, comment allez-vous ?
Bonjour, bonsoir à tous et à toutes. Moi ça va très bien, merci.
Ça va très bien.
Ouais.
Alors première question, vous faites de la bop. On dites-vous que vous faites de la bop ? Pas seulement, mais...
Alors, pour rectifier, la musique que je joue s'inscrit dans le courant plutôt hard bop.
Hard bop.
Il y a le bebop et le hard bop. Ce sont des courants musicaux qui sont apparus fin des années 40. Pour illustrer un peu le hard bop, on va dire en chef de file, on a pu avoir des références comme Art Blakey et les Jazz Messengers, Horace Silver, Cannonball Adderley et beaucoup, beaucoup, beaucoup d'autres. Ça, c'est plutôt dans la veine du hard bop. Hein, voilà. Donc, je pourrais faire juste un peu clarifier les choses. C'est du hard bop. Voilà.
D'accord. Et qu'est-ce qui vous a amené vers ce genre ? Est-ce que ça a été vos rencontres ? Est-ce que ça a été quelqu'un de votre entourage, un artiste ?
Alors, en fait, c'est un mélange de tout ça, en fait. Oui, c'est déjà pour la musique, en général, c'est le fait aussi de rencontres. On entend des choses chez les uns, les autres, chez les amis ou autres, et puis hop, tiens, qu'est-ce que c'est que ça ? Ça me plaît beaucoup. Et puis voilà, de là, on se fait après une culture par, moi j'appelle ça la culture par rebond, c'est-à-dire que voilà, on est intéressé ou interpellé par certains musiciens qui sont en train de jouer sur le disque, et puis on va prendre le disque et on avec qui joue ce musicien, avec un tel et un tel et un tel, et si on est curieux, on remonte et puis on retrouve un peu toutes les filiations, tous ces musiciens quoi. Et tout simplement, oui, des rencontres et puis l'écoute de cette musique. Moi, depuis que je suis jeune, j'écoute cette musique et voilà, je parlais d'Art Blakey, le Jazz Messenger, c'est des coups de cœur aussi, voilà.
Est-ce que vous avez toujours voulu aller vers ce genre-là ou est-ce que parfois vous avez, je sais pas, été inspiré par d'autres styles de musique? Parce qu'en fait, j'ai un peu pu lire que vous aviez été dans beaucoup de groupes, vous avez rencontré beaucoup d'artistes, à l'étranger également. Mm-hmm. Donc voilà, qu'est-ce qui...
Tout à fait. Nous, moi, j'ai eu différentes expériences dans la musique. Bon, ça a été très très tôt le jazz. Mais le jazz, c'est très vaste.
Oui.
Et moi, je pars aussi du principe qu'on doit garder l'esprit ouvert, avoir l'esprit ouvert. Donc, au fil de mes rencontres, j'ai pu travailler avec des gens de musique traditionnelle. Notamment, j'ai participé au trio des frères Khoury, qui sont des musiciens jordaniens d'origine palestinienne, avec qui je suis parti jouer avec au Moyen-Orient, leur musique. Alors, eux cherchaient une sonorité s'inscrivant dans le jazz acoustique. Donc, quand ils m'ont entendu jouer, ça leur convenait. Après, on a fait une espèce de fusion. Alors, c'est un mot un peu étrange. Je suis pas toujours très convaincu par ce genre de mix, de fusion. Ça s'est fait et ça se fera encore, jazz avec autre chose. Mais bon, là, c'était pas vraiment ce que eux voulaient. Ils voulaient vraiment qu'on joue leur musique. Mais c'était des gens, eux, également ouverts, qui aimaient le jazz, qui aimaient le flamenco, qui aimaient plein de choses comme ça. Et puis voilà, de fil en aiguille, on s'est retrouvé sur ce projet. Et puis je me suis retrouvé là plus récemment avec un danseur de hip-hop. Voilà, parce que c'est des choses aussi qui pour moi, restent intéressantes quand c'est fait avec conviction et sincérité. Voilà.
Alors moi, je vais aller un peu plus loin du coup par rapport à cette question. Est-ce que c'est une nécessité pour vous et votre carrière de jouer avec d'autres artistes ? Est-ce que ça vous permet de vous renouveler, vous personnellement, musicalement parlant ?
Non, je dirais pas ça. Non, c'est pas une nécessité absolue. Pas du tout. Moi, je me laisse un petit peu guider. Justement, on parlait des rencontres, je crois beaucoup à ça. Et puis, surtout, quand on a. Enfin, je fais en sorte d'entretenir ce que moi j'appelle une base solide, qui serait une base interne à l'intérieur. Il y a des choses que j'aime, il y a des choses que je n'aime pas, comme tout le monde. Il y a des choses dans lesquelles je me sens le plus à l'aise, au niveau d'une esthétique de jazz. Par exemple, là, on parlait du hard bop, du bebop, toutes les musiques qui baignent dans le swing. Ça, c'est des choses qui sont omniprésentes chez moi. Mais après, c'est plus une histoire de tempérament, de caractère et d'ouverture. Il y a des gens, d'excellents musiciens de jazz, qui sont absolument pas du tout ouverts à autre chose. Et c'est leur droit d'ailleurs, je les juge pas, mais moi je suis assez je regarde un peu à droite, à gauche, au-dessus, en bas, et quand je sens qu'il y a quelque chose d'intéressant et que je peux contribuer avec la sonorité que j'ai développée toutes ces années, à savoir ce qui s'inscrit dans un son acoustique et avec ma formation qui est la mienne, parce que je suis quand même autodidacte, moi j'ai tout appris en écoutant les disques de jazz, Et là, ça trompe pas. Hein. Quand on apprend avec un disque, on a à la fois on a et le son qui vient directement, il n'y a pas de filtre, et le swing. Hein, c'est comme par intraveineuse, comme ça, matin, midi et soir, on écoute cette musique, et puis un jour, on se réveille, et puis ben, on joue sur l'instrument, et puis il y a un truc qui sort, un petit plus qu'il n'y avait pas la veille. C'est comme ça qu'on se dit, tiens, j'ai peut-être franchi une petite étape. Et surtout, surtout les rencontres et la pratique au maximum avec d'autres musiciens. D'accord. Ça, c'est la meilleure école qui
la
soit.
La meilleure école.
Ah ouais, ouais. Voilà.
Donc, comme je le disais, vous avez beaucoup voyagé, notamment aux USA.
Oui.
Et donc, vous avez joué avec beaucoup d'artistes qu'on retrouve notamment même sur ce festival. Hier, vous jouez avec Hugo Lippi. Mm-hmm. Quel est votre plus beau souvenir scénique ?
Oh, il y en a plusieurs. C'est délicat de répondre à ce genre de questions, mais plus récemment, parce que moi, il y a eu tellement de moments, tellement de concerts, dans des bonnes conditions, dans des moins bonnes conditions. Récemment, on est parti en tournée en Indonésie. Voilà. Et après, on a enchaîné avec le Vietnam. Et en Indonésie, je garde des souvenirs vraiment superbes, quoi. L'accueil du public, les gens. Et en Afrique du Nord également, où je suis allé jouer 3 fois dans un super festival à Constantine qui s'appelle Dima Jazz, où j'ai été invité. Parce que mes origines, c'est l'Algérie. Et ma mère vient particulièrement de cette ville. Donc voilà, ils m'ont invité pour faire il y a 10 ans, donc l'ouverture, il y a 10 ans. Après, pour faire les 10e anniversaire. Et là, le public. Moi, je suis très sensible à la réaction du public, en fait. Mmh. Bah, voilà, normalement, on devrait être tous sensibles à ça.
Bien sûr.
Et là, franchement, Indonésie, Algérie, c'est des gens qui, à mon sens, applaudissent avec le cœur, moins avec la tête. Voilà. Mmh. Enfin, si je peux parler comme ça.
Ça change.
Voilà, voilà. Alors, après, c'est culturel. C'est, je sais pas. Je veux pas juger, mais j'ai remarqué, il y a une spontanéité. Une note de musique, elle est en place, elle est bien jouée, elle sonne, les gens ils prennent ça dans le corps, mais en Afrique de l'Ouest aussi j'ai ressenti ça, voilà. Et puis ici, ben, les gens apprécient aussi, hein, je dis pas que c'est, mais c'est différent, voilà.
J'imagine que ça vous booste, hein, pour votre carrière forcément.
Ah, complètement, ouais. Pas que pour la carrière d'ailleurs, même pour la musique du moment, à l'instant présent. Nous on préfère une salle réactive, on la sent complètement en connexion avec nous,
ouais.
Et là ça nous fait, au moment même de faire la musique, ça nous fait faire des bons, c'est évident. On préfère ça qu'une salle un peu froide où les applaudissements sont timides. Alors c'est peut-être de notre faute, hein, j'en sais rien, mais bon, voilà.
Alors, ce soir, on vous retrouve aux côtés de Fabien Marie à la trompette, de David Sauzet au saxo, de Pierre-Christophe au piano et de Fabien Marcos à la contrebasse. Comment vous êtes-vous rencontrés ?
Oh, alors ça, c'est déjà, moi, je tiens à souligner que c'est une formation que je dirige depuis 15 ans maintenant et je crois beaucoup en la fidélité. Et je crois ce que j'appelle le son d'orchestre. Et un son d'orchestre, ça n'arrive pas comme ça. Aujourd'hui, on vit une drôle d'époque où les musiciens se sentent dans l'obligation, alors ou pour des raisons de médias ou pour des raisons de carrière ou je ne sais quoi, de sauter d'un projet à l'autre sans réellement approfondir. Et je trouve ça un petit peu dommage. Moi, j'ai plutôt pris l'option inverse, c'est-à-dire je construis progressivement avec le temps un son d'orchestre. Mmh. Et aujourd'hui, 15 ans après, on sort le 3e disque là à l'automne, en octobre, le volume 3 des Jazz Workers. Et d'ailleurs, c'est pour nous, à l'unanimité, on a estimé que c'était le meilleur disque. On ne va pas s'arrêter là, mais pourquoi ? Parce que le son d'orchestre, il est là maintenant. 15 ans de fidélité à ces musiciens que j'ai rencontrés. On s'est rencontrés tous plus ou moins dans les clubs de jazz à Paris. On vient tous de province. Hein, faut savoir que des authentiques musiciens parisiens, il n'y en a pas beaucoup. Au bout d'un moment, on vient tous de différentes régions de France et on s'est retrouvés à l'époque du Petit Opportun, par exemple, où j'animais le collectif des Nuits Blanches, avec d'autres musiciens. Et là, c'était un vivier de rencontres superbes. Donc j'ai rencontré, j'ai rencontré Pierre-Christophe ici, Fabien Marco, je l'ai rencontré en province. À Mâcon, Fabien Marie, tout jeune, beaucoup plus jeune que moi, lui déjà, comme on est originaire de la même région, de Normandie, je l'ai rencontré là-bas, et puis ensuite à Paris, et puis qui j'ai oublié là-dedans, David Sauzet, pareil, je l'ai rencontré quand il faisait partie du collectif MU, et puis on a sympathisé tout de suite, et on s'est retrouvé sur des goûts communs de musique en fait.
D'accord.
C'est ce qui nous a amené finalement à travailler ensemble de façon régulière, voilà.
Alors, vous parlez de votre tout dernier album qui n'est pas encore sorti, qui sortira en octobre.
Ouais.
Qu'est-ce qu'on retrouvera du coup en exclusivité sur Radioactive et RFL 100 ? Qu'est-ce qu'on retrouvera sur cet album ?
Alors, on retrouvera des choses, quelques compositions personnelles, mais on retrouvera aussi des choses que j'ai extraites de comédies musicales, notamment une comédie musicale que j'aime beaucoup qui s'appelle en anglais The King and I, Le Roi et moi, qui a été interprétée par le fantastique Yul Brynner. et la fantastique Deborah Kerr. C'est un film fin des années 50. La musique a été écrite par Oscar Hammerstein et Roger Hart, qui ont écrit de nombreuses comédies musicales, My Fair Lady et beaucoup d'autres. Et d'ailleurs, j'ai donné le titre du disque March of the Chamez Children, qui est un thème qui apparaît à un moment donné dans cette comédie, qui est une mélodie magnifique. Voilà, donc on va retrouver ça. Et on va retrouver aussi un arrangement sur un thème de Rimsky-Korsakov, qui est un compositeur russe. Et voilà, arrangé à la sauce, on va dire, hard bop. Voilà.
En 2009, vous avez sorti un album Perk Snare.
Oui.
Qu'est-ce que ça signifie déjà, Perk Snare ?
Alors, Perk Snare, c'est... En fait, il faut savoir que moi, j'ai retrouvé un batteur que j'ai toujours adoré, que j'ai entendu d'abord sur disque. Et puis, je suis parti à sa recherche dans les années 2000 aux États-Unis, à New York précisément, dans le Jamaica Queens, qui est un quartier exclusivement noir là-bas. Et j'ai pu retrouver Walter Perkins. Alors je l'ai vu deux, trois fois. La dernière fois, il m'a offert sa caisse claire qu'il jouait à l'époque, tout simplement. Il m'a offert une caisse claire et en anglais c'est snare. Mm-hmm. Et comme Walter Perkins, son surnom c'était Perk, tout simplement Perk Snare, la caisse claire de avec le petit apostrophe, la caisse claire de Perks. Et c'est un cadeau qu'il m'a fait un an avant sa mort. Donc j'en suis évidemment flatté, ravi, je l'ai encore évidemment. Et voilà, j'ai donné le titre du premier disque en hommage à ce don que m'a fait Walter Perkins. Voilà.
D'accord, et du coup vous lui avez quand même dédié cet album.
Oui.
Il est entièrement dédié à cet artiste.
Oui, mais en fait il est plutôt, enfin, au sens plus large, il est surtout dédié à ce qu'on appelle les seconds couteaux. Mm-hmm. Hein, parce qu'il y a une grande tradition de la batterie dans le jazz, et évidemment tous les batteurs qui commencent vont avoir en tête de gondole, en façade, ils vont avoir tous les grands noms de la batterie de jazz. Alors j'en cite quelques-uns, on va dire Kenny Clarke, Elvin Jones, Philly Joe Jones, Max Roach. Tout ça sont des batteurs que j'adore et qui m'influencent encore aujourd'hui. Hein. Tony Williams et blablabla. Voilà, bref. Mais moi, je me suis au bout d'un moment, évidemment, j'écoute encore ces batteurs, j'ai approfondi l'écoute de ces batteurs, mais j'ai voulu voir ce qu'il y avait avant, enfin pas avant, en parallèle à tous ces... Parce que c'est comme aujourd'hui, on met le projecteur sur des musiciens, aujourd'hui. Hein, je ne vais pas citer de nom, mais bon, il y en a plein. Mais il faut savoir qu'à côté, il y en a plein d'autres qui sont aussi intéressants, bien sûr, dont on ne parle jamais. Mmh. Et parce que ils ne sont pas carriéristes, parce qu'ils ont peut-être une ambition qui se cantonne à simplement faire de la bonne musique et continuer à la jouer le plus longtemps possible. Ça peut être aussi une ambition. Pourquoi vouloir absolument obtenir la reconnaissance absolue, hein ? Surtout, on voit comment ça se passe aujourd'hui. La reconnaissance, ça dure 1, 2, 3 ans, et puis après, on prend un nouveau truc, hop, ouais, on jette l'ancien. Ouais. Donc moi, je pense, comme ça rejoint ce que je disais tout à l'heure, je pense vraiment beaucoup sur la durée, mm-hmm, plus que comme ça, sur le coup du moment, ou le buzz, comme on appelle aujourd'hui, et après, ouais, aujourd'hui, je trouve qu'il y a beaucoup d'amnésie, quoi. Mm-hmm. On oublie vite. Voilà.
D'accord. Eh bien, je te passe la parole.
D'accord. Oui, moi, ce qui m'interpelle, vous avez parlé des festivals qui se passent d'autre côté de la Méditerranée. Dites-nous comment ça se passe, les festivals de jazz, par rapport à... Pas par rapport, mais en tout cas, il y a, dans l'autre côté de la Méditerranée, il y a des festivals de jazz.
Oui.
Est-ce que
oui,
vous pouvez nous dire un petit mot par rapport à cette expérience ?
Bien sûr. Bah, j'ai travaillé donc au festival de Dima Jazz, comme je disais tout à l'heure, à Tanja Jazz, au Maroc. Dans le Maroc, je vais aller jouer dans plein d'endroits. Il y a le Pietri à Rabat, qui est un endroit que je recommande vraiment. Ça fonctionne toute l'année, c'est génial. Le type qui tient ça, Driss, est un passionné de musique, mélomane. Il adore et il respecte les musiciens. Et ça, c'est ce que je sens quand je vais là-bas. Pas qu'ici on ne nous respecte pas, loin de là, mais l'approche est différente. Et comme je disais tout à l'heure, là-bas, ça marche beaucoup plus avec le cœur, en fait. Le feeling, l'instinct fait partie de la culture. Donc c'est valable pour l'humain aussi. Et puis je sens que là-bas, ils sont pas trop blasés, en fait. Parce que ça a été des pays qui ont été en souffrance, qui ont été fermés longtemps, et là ça éclate malgré les difficultés qu'on peut encore en rencontrer aujourd'hui. Tout est compliqué là-bas, hein. c'est pas en claquant des doigts, non, tout est compliqué. Mais justement, cette complexité va faire que quand ils obtiennent quelque chose, ils le lâchent pas et ils le gardent. Et donc ils ont une espèce d'enthousiasme comme ça qui, nous, musiciens venant d'Europe, d'Occident, ça nous touche beaucoup. Enfin moi en tout cas, voilà.
Oui, et puis cette musique, ça fait pas partie de leur culture.
en plus. Mais ils sont... c'est quand même des... J'ai remarqué ça en Afrique du Nord, en Afrique de l'Ouest. C'est quand même des... Ils sont quand même très sensibles à l'aspect, on va dire, l'aspect rythmique dans la musique. Pas qu'ils ne comprennent rien à l'aspect harmonique, hein, loin de là. Mais ce qui va primer, d'abord, c'est l'aspect rythmique. C'est comme ça. Voilà, ça, y a pas besoin de se raconter d'histoire. C'est un fait, c'est une réalité. Je l'ai constaté sur place. Donc, à chaque fois que je suis parti jouer là-bas, je me suis toujours arrangé pour inviter des musiciens locaux, notamment au Sénégal, où je suis beaucoup allé, et aller faire venir avec nous sur scène. Et puis voilà, quoi, on fait ce qu'on appelle un jam, un buff, comme ça, et c'est tout. C'est super. Il y a eu des super moments de partage, voilà, spontanés en plus. Donc c'est génial.
C'est vrai que lorsqu'on présente des musiciens sans percussionniste ou sans percussion, il y a quelque chose qui ne va pas.
Je ne sais pas si ça ne va pas, mais il y a comme un vide, quoi.
Oui,
il y a
fait,
comme
oui.
un vide. C'est ce que j'exprimais tout à l'heure. Il y a la tête et il y a le corps. Alors l'idéal c'est d'avoir une harmonie entre les deux, mais je trouve que selon les continents, des fois on dissocie un peu trop les choses, hein. Ici on est là, pour ça tout à l'heure je parlais de les gens qui applaudissent avec le cœur, directement lié au corps, et ceux qui applaudissent avec la tête. Donc est-ce qu'il faut applaudir? C'est là qu'on applaudit, est-ce que c'est bien si j'applaudis maintenant ou c'est pas bien? C'est un exemple, hein. Je caricature un peu, mais moi je l'ai constaté, ça fait quand même 30 ans que je navigue partout, et voilà, ça ne repose pas sur rien ce que je suis en train de dire, c'est des constats. Donc voilà.
Dernière constatation, c'est que on vous qualifie comme médiateur entre les générations, et mm-hmm. aussi on sent que vous êtes à la rencontre des autres percussionnistes et pour échanger.
Oui.
Est-ce que vous pouvez nous dire un petit mot?
Oui, ben là, à chaque fois que je pars jouer en Afrique du Nord, spécialement en Algérie, j'engage avec moi un ami d'abord et avant tout, et un excellent percussionniste chanteur qui s'appelle Jean-Luc Difraya, qui actuellement tourne avec le Hadouk Trio et avec Louis Winsberg et beaucoup d'autres choses. Alors c'est pareil, Jean-Luc c'est quelqu'un de très ouvert, qui adore aussi le son de la tradition sans la jouer. Hein, ça existe aussi. Des gens qui reconnaissent ça, mais qui ont fait un choix de jeu, de musique, autre, mais en gardant un respect pour ça, parce qu'ils sentent qu'il y a quelque chose qui se passe à l'intérieur. Et à chaque fois que je pars en Algérie, j'appelle Jean-Luc pour adjoindre au quintet un percussionniste. Donc, comme je disais tout à l'heure, pour accentuer encore plus le côté percussion. Voilà, donc oui, bien sûr, il y a des rencontres et des mélanges avec des percussionnistes. Pareil avec les musiciens jordaniens dont je parlais tout à l'heure. Le violoniste joue très très bien le derbouka, d'ailleurs c'est sa formation de base. C'était des gens qui jouaient pour le roi de Jordanie à l'époque, donc des musiciens d'un très très haut niveau. Et c'est pareil, c'est fantastique. Et j'ai aussi des projets qui peut-être se concrétiseront un jour, de faire, je l'ai déjà fait, mais des choses à plusieurs batteries par exemple. Voilà, donc des rencontres de percussionnistes, hein, basées sur des répertoires communs, de jazz, de la spontanéité, et beaucoup de feeling aussi, c'est important. Voilà.